Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue au cœur du lotus. Aujourd'hui, nous continuons notre merveilleux voyage au travers de ces femmes inspirantes. Et c'est le dernier épisode, le troisième de notre triptyque avec la fantastique Anne-Julie Ozina. Le dernier épisode que nous avons enregistré ensemble s'est un petit peu coupé de manière abrupte parce que nous étions tellement lancés passionnément dans notre discussion que nous n'avons pas réussi à poser un terme bien précis pour clôturer l'épisode. Alors, on va reprendre exactement là où on s'était arrêté. Et dans ce dernier épisode, ce troisième épisode, Anne-Julie nous parle de sa foi. Grand sujet. Pour une grande femme de foi. Je vous souhaite une bonne écoute.
Le chemin de ta foi, je crois que c'est par là que ça nous amène tout ça.
Oui, tout à fait. Bah oui, en plus j'ai parlé de Saint-Marcel, j'arrête pas de parler de Saint-Marcel en ce moment. Je sais pas s'ils vont être trop d'accord là, les évêques et tout, mais c'est pas grave, Saint-Marcel c'est un cadeau que j'ai reçu aussi du ciel. C'est il y a 2 ans maintenant, j'ai fait une retraite. Et c'est très, très intime ce que je te partage là, mais en même temps, je pense que c'est hyper important à dire. J'en ai parlé hier pendant l'entretien. On n'a pas arrêté d'avoir des trucs trop bizarres pendant cet entretien. Ce live Instagram, c'était un enfer. J'ai une étagère qui a explosé, une étagère en verre qui a explosé pendant le live. J'ai le téléphone qui s'est coupé. Enfin, vraiment, c'était n'importe quoi. Le téléphone était rechargé, hein. Y a ma voix, il paraît qu'il s'est déformé, qui est tombé dans les très, très graves. Les gens comprenaient moins ce que je disais. Enfin, il y a eu plein, plein d'événements paranormaux. Je me suis dit, OK, bon, je pense que je suis sur la bonne voie. Il va falloir que je parle de tout ça. C'est rigolo. Bon, après, sans paranoïer non plus, mais c'est rigolo quand il y a beaucoup d'énergie. C'est des choses qui me touchent aussi, donc forcément. Il y a 2 ans, donc j'ai fait cette retraite en me disant, je vais me faire une petite retraite. J'ai besoin de silence, j'ai besoin de repos. Je travaille beaucoup. Voilà, j'ai besoin de me retrouver un petit peu. Mais dans mon intention première, il y avait l'idée de retravailler derrière. C'est-à-dire, je fais une retraite, ce n'est pas pour me retrouver vraiment, c'est en fait pour me reposer, pour regagner de l'énergie, pour réenchaîner derrière. Hein, on fait souvent ça avec les vacances ou les moments de repos. Et en fait, on ne devrait pas trop. Parce que. Pardon. Ce n'est pas vraiment du repos, quoi. C'est-à-dire, je renfloue les batteries, tu sais, pour ensuite redonner derrière. Oui, ça c'est secondaire, mais la première chose c'est vraiment retrouver cet instant présent et se retrouver. Et donc j'étais dans la voiture avec une amie qui me dit, qui me parlait d'un couvent dans lequel elle était allée pour se reposer tout ça et pour arrêter de fumer. Et dans la conversation, elle était en voiture, je me souviens lui avoir dit, oh là là, mais moi je rêve là de trouver une retraite, j'en peux plus, je suis fatiguée, je crois que j'ai besoin de me couper du monde, me couper de tout quoi, de famille. Famille, travail, réseaux sociaux, tout. Enfin, je veux vraiment couper et me retrouver toute seule là. Voilà. Je vais peut-être aller dans ton couvent. Et au moment où je lui dis ça, on est dans la voiture, je reçois un texto d'une fille qui, à la base, était une élève de ma formation, mais qui est devenue maintenant une amie, que je ne connaissais pas, et qui me dit, voilà, en texto, grâce à toi et grâce à ta formation, je me reconnecte au Christ et je me suis inscrite à cette retraite. Et elle me met un lien. Là, je dis, OK, alors là, les gars, je sais pas, je peux pas être plus clair. Hein. Je parle d'une retraite, on m'en envoie une dans l'instant. Donc, je dis, OK, j'ai même pas cherché, je me suis inscrite. C'était du côté du Var, là-bas. Et j'ai même pas cherché. Je savais même pas ce qu'il y avait comme programme ni rien. Je me suis dit, c'est ça. Et en fait, j'ai atterri donc, dans un foyer de charité, qui est un foyer donc, catholique romain, qui a été fondé par Marthe Robin, qui est donc une sainte. Enfin, en tout cas, elle est en voie d'être canonisée en ce moment. C'est en cours, quoi. C'est pas encore fait, mais c'est une sainte, cette femme. C'était une médium, en fait, hein, qui était polyhandicapée, qui était dans son petit lit, dans sa petite chambre dans le noir, parce qu'elle était aveugle et qu'elle ne pouvait pas bouger de son lit, qui n'a pas mangé pendant 51 ans. Sinon, le corps du Christ, tous les jours. Et voilà, et qui recevait des stigmates et voilà, des apparitions, des choses très, très fortes dans son corps. Et cette femme, en fait, tu rentrais dans sa chambre, il paraît, t'étais dans le noir, c'était tout petit, c'était très modeste, hein. Tu ressortais de là, tu changeais ta vie. Complètement. Parce qu'elle te disait des mots, des choses apparemment qui étaient, enfin, qui te transfiguraient totalement. Elle était habitée vraiment par le Christ. Et donc cette médium a fait partie de ma vie, puisque ma maman me racontait les histoires de Marthe Robin le soir au coucher quand je faisais ma prière le soir quand j'étais petite. Donc ça fait partie de mon histoire aussi. Je me suis retrouvée dans ce foyer de charité et j'ai vécu un gros cadeau, c'est-à-dire la grâce vraiment de la conversion, quoi. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je suis sortie de là. J'ai pleuré pendant 7 mois. Voilà. Je ne savais plus ce que je devais faire. J'étais complètement perdue, mais perdue dans un sens de... En fait, j'étais perdue jusqu'à maintenant. Je sais maintenant où j'en suis, mais je ne sais pas quoi en faire. En fait, c'est trop d'informations. C'est trop. C'était vraiment des pleurs de grâce, ce qu'on appelle des pleurs de grâce. C'est des pleurs en fait de nettoyage, quoi, des choses où d'un seul coup tu pleures. C'est pas parce que tu es triste, c'est parce que d'un coup tu as compris une vérité. Tu as le cœur en fait qui d'un seul coup s'ouvre. Et cette porte-là, c'est trop d'informations, quoi. C'est trop. Et c'est pas des informations qui sont rentrées dans ton cerveau, c'est des informations qui vibrent dans ton corps et qui sont. C'est immense. Il n'y a pas de mots, j'ai envie de pleurer encore. Donc c'est assez intense. Et je suis sortie donc de ça, j'ai pleuré pendant 7 mois. J'ai refait une autre, d'ailleurs, une autre retraite juste après, une autre étape. Il y a eu plusieurs étapes, hein, ça s'est pas fait d'un coup. Et puis au bout de 7 mois, je me suis dit, ça y est, je sens que je suis prête, mais il y a un truc qui me manque. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui me manque. Et donc j'ai demandé à mon papa, qui est diacre, je lui ai dit, papa, il y a un truc, c'est que j'ai l'impression qu'il faut que je me rebaptise, en fait. C'est comme si on me demandait là-haut de me rebaptiser. Et il me dit, mais tu peux pas te rebaptiser, tu as été baptisé chez les catholiques romains au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce cadeau, c'est un cadeau d'amour et l'amour, ça ne se reprend pas. On ne peut pas revenir en arrière avec ça. C'est le don, quoi. Donc tu l'as. C'est pour ça, c'est juste qu'il faut que tu le ravives d'une certaine manière. Et il me dit, des 5 enfants, tu es la seule qui n'a pas reçu la confirmation. Donc peut-être qu'il faut que tu passes par le baptême de feu et que tu fasses cette confirmation qui est le baptême de l'Esprit Saint. Et là, ok, bingo, je pense que c'est ça, je vais faire ma confirmation. Et là, j'ai contacté, donc j'allais souvent à la messe, depuis cette retraite, j'allais à la messe tout le temps, et je suis allée voir le prêtre de l'église où j'étais, à Toulouse, en lui disant, mais tu sais, j'arrive avec ma, je sais pas comment dire, nue quoi, c'est-à-dire avec cette espèce de vérité, les larmes aux yeux, en disant... En fait, je crois qu'il faut que je fasse ma confirmation. Enfin, vraiment, comme une petite fille, finalement, tu vois, qui vient auprès d'un papa pour lui dire un truc qu'elle a compris et elle est trop à fond dans cette direction et elle demande finalement juste son approbation. C'est presque ça, tu vois. Et là, le prêtre me regarde, il me dit, ok, très bien. Vous faites quoi comme métier? Et là, je lui dis ce que je fais. Grosse erreur. Et ben, en fait, je me suis faite juger des pieds à la tête et c'était l'enfer. Et je n'ai même pas encore eu le temps de parler du tatouage. Donc, je n'imagine même pas ce qu'il aurait pensé si je lui avais dit que j'étais tatoueuse. Voilà, ce que je faisais, c'était mal, c'était pas bien, il faut que je fasse attention, c'est le diable, le tarot, etc., etc. Donc, en fait, je suis sortie de là, j'ai pleuré, mais ben, comme une petite fille, mais pas cette fois des larmes de grâce, hein, des larmes de colère, des larmes de déception, des larmes de mais qu'est-ce que j'ai. En fait, je me suis trompée. J'ai voulu re-rentrer là-dedans, mais en fait, ce n'est pas ça. Je crois que si je l'ai quitté, ce monde-là, c'était pour une raison. Tu vois, en fait, tout est revenu, tous les démons sont revenus pour me dire, ah bah, tu vois, t'as raison, c'est tous des cons, c'est tous... J'avais vraiment cette version-là. Et en fait, ben, j'ai prié fort, et j'ai demandé... Je me suis souvenue aussi, tu vois. Bon, j'ai eu aussi ma mère au téléphone qui m'a dit des choses, qui m'a aidée à surmonter ce passage-là parce que j'étais un peu perdue. Mais je me suis surtout souvenue du langage du tarot. Dans le tarot, quand tu arrives, tu vois, à l'arcane sans nom, le 13, tu as ce moment où il y a tout qui change dans ta vie. Et juste derrière, tu as cet ange-là, tempérance. Parce que, en fait, tu touches d'un côté, dans le grand changement, dans le grand bouleversement, la grâce. Et tu touches à cette source-là. Mais elle est là juste pour venir te rééquilibrer, pour te faire toucher du doigt que ça existe. Mais c'est pas encore là. C'est pas encore, voilà. Pour avancer vraiment sur le chemin, il faut que tu rencontres l'adversaire. Et l'adversaire, c'est le Shatan en hébreu. C'est le Satan. Et c'est le diable qui vient en arcane 15, juste après l'arcane de tempérance. Donc, je me suis rappelé que cet adversaire, c'est pas quelqu'un dont il faut avoir peur, en fait. c'est justement le langage, c'est logique, c'est l'étape logique de si je lui fais pas face et si je le regarde pas dans les yeux en disant mais attends, tu me fais même pas peur toi, je vais rester dans ce truc-là en fait, à me dire ah bah oui, bah, tu vois, la colère qui revient, c'est tous des cons, alors que cette grâce et cette ce sentiment de pardon et d'apaisement et cette paix et ce Saint-Esprit, je l'ai senti, tu vois, avant. Pourquoi d'un coup on me l'enlève en fait? Et bah finalement, j'ai demandé à recevoir ma paroisse. J'ai dit voilà, en fait, c'est pas grave, c'est juste que c'est pas mon église. Et je remercie d'ailleurs ce prêtre de m'avoir dit ça, parce que en fait, il m'a fait comprendre que c'était pas mon église et c'est OK. Mais par contre, je me suis dit, il y a bien une paroisse pour moi. Je sais pas laquelle c'est, je sais pas qui c'est ces gens, mais en tout cas, je vais prier, je vais demander qu'on m'amène là-bas. 3 semaines après, je rencontrais un prêtre orthodoxe qui habite, enfin qui habite, non, il habite pas là, mais en tout cas qui est recteur de la paroisse de Saint-Marcel. Et je suis, j'ai atterri, si tu veux, à Saint-Marcel, là-bas. Je devais déménager à Cordes-sur-Ciel, mais je n'avais pas encore déménagé, j'étais encore à Toulouse. Et on m'amène à Saint-Marcel à 10 minutes de Cordes, sachant que c'est quand même la tradition orthodoxe française, il n'y a pas des paroisses partout en France. C'est beaucoup moins connu que le catholicisme romain. Donc, je me retrouve dans cette liturgie, je passe la porte, et là, vraiment, je ressens à l'intérieur de moi, ça tombe à genoux, tu vois, tout mon corps entier tombe à genoux de OK, c'est ici. Et je rencontre une communauté hyper ouverte, quoi, des gens qui sont aussi, tu vois, dans plein de choses spirituelles, ouvertes, tu vois, tout ce qui est pendule, tarot, oracle, mais ils n'en ont pas peur. Et justement, ce qui est dit dans cette religion-là, c'est, en tout cas, dans cette confession-là, c'est plus tu vois le diable autour de toi et dans les gens, mais plus il est en toi en fait. Donc plus tu vas dire que dans le tarot il y a le diable, mais plus tu vas faire une réalité. Donc le diable, il est dans le regard des gens qui le voient partout en fait. Il n'est pas dans. C'est une réalité qui est intérieure, c'est quelque chose qui. Voilà. Si tu as décidé de voir Dieu partout, ben, je pense que c'est quand même une voie qui est un petit peu plus. Un peu plus en paix, quoi. Et ils disent vraiment, voilà, la conversion, l'évangélisation des gens, c'est pas à nous de le faire, c'est au Saint-Esprit. On peut prier pour l'évangélisation des gens, mais ce sera pas à nous à essayer de convaincre quelqu'un que son tarot c'est le mal, que le bien c'est Dieu, que l'église c'est bien, que ci, que ça. Jamais. En fait, il faut que ce soit un chemin intérieur, il faut que ce soit chacun qui soit amené. Par contre, la foi, elle se demande. Voilà, moi je l'ai demandé. Parce qu'au bout d'un moment, j'y arrivais plus, quoi. Je me dépatouillais plus du tout. La spiritualité, c'est bien mignon, mais il y a de tout, tu sais plus. Et quand tu n'es pas dans une pratique, moi, j'ai besoin d'avoir une discipline et une voie. Et bon, bah, j'avais beau avoir mon Christ accroché chez moi et tout, j'étais pas dedans encore. Et au moment où j'ai dit vraiment à Dieu, montre-moi, toi, tu sais, moi, je sais pas, envoie-moi quelque chose pour que je puisse, en fait... d'avoir dans ma vie quoi, enfin, que ce soit OK, que je nomme ton nom, que je me relie vraiment à ton amour, parce que en fait je sens que c'est possible mais je sais pas comment, et je sais qu'il y a que toi qui peux le faire en fait, c'est pas à moi de décider ça. Et ça a été radical, hein. Ça a été hyper fort. Donc aujourd'hui, bah voilà, je suis orthodoxe depuis le 15 août. J'ai fait un an de cheminement où vraiment j'ai cherché, on va dire, dans le christianisme, où je suis allée à la messe, où j'ai fait plein de choses, où j'ai cherché, où j'ai prié. Et puis depuis le mois d'août, depuis le 15 août, je suis, on va dire, chrismée, c'est comme ça qu'on dit. Donc j'ai reçu la confirmation orthodoxe, sachant que la confirmation orthodoxe va avec le baptême et la communion. C'est-à-dire qu'un bébé, quand il naît, il n'y a pas de séparation comme chez les catholiques romains où on fait d'abord le baptême, ensuite la communion et ensuite la confirmation. Moi d'ailleurs, j'ai fait que baptême, communion et confirmation, j'ai pas fait. Et donc là, j'ai fait confirmation chez les orthodoxes, sauf que ça m'a fait passer chez les orthodoxes, c'est-à-dire que j'ai fait une confession de foi orthodoxe, c'est-à-dire j'ai dit que voilà, officiellement, je voulais être orthodoxe et je rentrais dans cette confession. Donc j'ai pas eu besoin d'être rebaptisée parce que j'étais déjà baptisée. Par contre, mon fils qui a été baptisé, qui a demandé le baptême à 5 ans, lui, il a eu le baptême, la communion, la confirmation en même temps, c'est-à-dire il a communié au corps et au sang du Christ à 5 ans. Et les bébés, c'est pareil. Donc ça, c'est absolument magnifique. N'importe qui communie, enfin qui vient communier chez nous, peut le faire même s'il n'a pas fait sa communion. Il peut le faire à partir du moment où il est baptisé, en fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ça, c'est hyper beau. Et voilà, c'est complètement. Bon, moi, je suis dans la découverte de tout ça, donc je suis beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations qui me traversent et que j'ai envie de partager. Et donc voilà, et puis depuis janvier, là, enfin depuis septembre, je me suis inscrite à l'Institut orthodoxe où je reçois des cours, donc en licence. Je continue les cours d'hébreu, et puis j'ai depuis janvier reçu une espèce de formation d'un coup, ça s'est tout accéléré, j'ai rien demandé, et en fait, ils ont décidé là-haut, hein, pour moi, que je serai acolyte, donc l'équivalent de sous-diacre en fait, et que je servirai l'autel pour l'église. Donc, il n'y a pas de femmes qui font ça, normalement. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai jamais vu au sein de l'orthodoxie. Et là, on m'a proposé ça. Donc, j'ai accepté, bien évidemment, de le faire avec beaucoup de... Voilà, de waouh. Je suis à côté de l'autel, vraiment, quand il y a quand il y a le Christ, en fait. Hein, quand il y a tous les rituels que l'on fait pendant la liturgie orthodoxe est absolument incroyable. C'est pas des messes qui durent 1 heure, c'est des trucs qui durent 3 heures quelquefois. C'est fort, c'est dense, mais je vois pas le temps passer. Il y a quelque chose comme je suis aspirée dans un vortex et je ressors de là et je suis juste trop bien en fait. C'est vraiment mon. Ouais, c'est mon truc. Voilà, je sais pas. Je suis rentrée à la maison, ce qu'on dit chez les orthodoxes. On ne se convertit pas à l'orthodoxie, on rentre à la maison parce que c'est l'église des premiers chrétiens.
Donc aujourd'hui, pour toi, en quelques mots, la foi, c'est quoi?
Ah ben la foi, c'est très grand mot. Ça se vit, je ne saurais pas te donner une définition théorique. Pour moi, c'est quelque chose qui se vit, c'est un chemin vivant. Ce que je disais aussi, enfin ce que je disais il n'y a pas longtemps à une amie, je disais, chez les orthodoxes, on dit, je ne crois pas en Christ, je vis en Christ. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est même pas une histoire de croire ou de pas croire ce qui a été écrit ou ce qu'on nous raconte ou quoi. C'est qu'en fait tu le vis et tu le la vérité. Quand on parle de la vérité avec un grand V, ça veut pas dire ma religion c'est la vérité et les autres pas du tout. Ça veut juste dire que déjà il n'y a pas de religion parfaite. C'est la religion, c'est elle est parfaite à partir du moment où elle te fait faire des belles choses et que c'est la tienne. Et voilà, donc il y en a. Il y a plein de manières de se relier, en tout cas, à cette vérité-là. Et c'est une vérité qui est dans les actes. Ben, c'est l'amour, en fait. Donc l'amour, ça se prouve pas et ça se théorise pas, en fait. Ça se vit. Ça se vit. C'est pas facile, parce qu'on le sait que l'amour, c'est ce qui nous fait douter tout le temps. C'est ce qui nous fait... ça nous fait cheminer. Il y a des hauts, il y a des bas, mais voilà. Comme dit justement le prêtre orthodoxe et auteur que j'aime beaucoup, Jean-Yves Leloup, il dit... une foi qui n'est pas mise à l'épreuve par le doute, c'est de la croyance. Et l'idée, c'est de ne pas rester dans la croyance, au contraire, c'est d'ouvrir ses croyances limitantes. Entrer dans la foi, c'est sortir de la croyance, pour moi en tout cas. Et rentrer vraiment dans cette vérité qui est prouvée tous les jours parce que la vie t'envoie, en fait, par les signes, par les messages, les choses, voilà, qui sont claires, hein, qui ne sont pas des trucs ni occultes, ni voilà, j'ai pas. Même si ça paraît complexe, mon protocole, aller chercher les bons hébreux, les machins, les trucs avec mon tarot, plein de gens qui me disent, mais c'est hyper compliqué. Non, c'est pas compliqué. Pour mon cerveau, c'est pas compliqué. Pour ça que peut-être on m'a donné ça là-haut pour me dire, tiens, fais ça, voilà, pour moi, c'est très simple. Mais en soi, c'est créatif, voilà, c'est pour un cerveau d'artiste ou de créatrice. Mais on a tous notre prisme et notre façon de vivre la foi. Et je crois qu'il faut choisir sa propre version et son propre chemin de foi personnel, quoi. On ne peut pas dire il y a un chemin. C'est pas possible.
Et ton conseil pour que chacun, chacune puisse trouver son chemin vers sa propre foi, ce serait quoi?
Ben, ce serait de se relier justement à cette source, en fait, à ce Dieu, à ce divin, mais pas dans l'idée trouver une religion, pas dans l'idée aller encore, tu vois, dans des communautés spirituelles, développement personnel, pas dans l'idée de chercher. Dans le livre de Job, justement, il dit ça, quoi. Quand il parle avec ses trois amis, Job, pour ceux qui connaissent, il va parler de Dieu. Pendant tout le texte, il parle de Dieu. Et il fait le procès à Dieu parce qu'il comprend pas pourquoi il y a autant de souffrance dans le monde, etc., etc. On le fait aujourd'hui, le procès à Dieu, hein. On continue avec tout ce qui se passe. Mais en fait, l'idée, c'est pas de parler de Dieu, c'est pas de faire des grandes théories sur Dieu, l'idée, c'est de parler à Dieu. Et de parler finalement à cette source, c'est quoi Dieu en fait? c'est la réalité absolue, c'est l'incréé, c'est la lumière incréée, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, c'est quelque chose qui est bien au-dessus de l'univers, qui est bien au-dessus de, justement du monde matériel. Et cette instance-là, elle ne s'achète pas, elle ne se vend pas, elle ne se marchande pas, c'est quelque chose qui nous est donné, c'est un cadeau, et c'est quelque chose qui est gratuit, quoi. Enfin, moi, quand je parle vraiment de cette gratuité, parce que quand je vois des gens, justement, qui dépensent des 1000 et des 100 pour des retraites, pour des machins, pour des trucs, et se dire, on va essayer de trouver, tu vois, essayer de trouver Dieu à travers tout ça, non, surtout pas, en fait. Ne remettez jamais ça dans les mains d'un gourou, de quelqu'un qui va vous dire ce que c'est, quoi. Et alors, c'est rigolo parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de définir ce que c'est. Et voilà, mais je remets toujours, toujours, toujours les gens dans cette perspective-là parce que déjà, moi, je suis rien du tout. Moi, je vis mon petit chemin de foi et après, bah, je transmets. Maintenant, il y a des gens qui profitent, tu vois, de cette instance-là, de ce qu'ils reçoivent comme information pour justement manipuler, détourner, faire des choses. Et en fait, il n'y a rien de plus gratuit que Dieu et de plus, voilà, simplement. Il faut lui demander. Il faut lui demander, il faut lui parler directement. Et il n'y a qu'en lui parlant et en se reliant vraiment comme ce cordon ombilical qui nous relie, où on va pouvoir vraiment être en lien avec lui et ne faire qu'un, parce qu'en fait, c'est un miroir avec l'humanité. C'est-à-dire que l'incarnation n'est pas dissociable de la déification. Ce sont deux notions qui, en fait, on ne peut pas les penser séparées. Nous, on les pense séparés parce que notre cerveau, il est fait comme ça et que les polarités, on n'arrive pas à les réunir, sinon on devient fou. Et tant mieux d'ailleurs qu'on soit un peu binaire parce que ça nous permet un peu de, voilà, de voyager, quoi. On va d'un côté, on va de l'autre, tac, tac, tac. Et dans la réunion, en tout cas des deux, dans cet instant, plus on va se connecter à l'instant présent, plus on va être connecté à l'éternité. Donc en fait, c'est en se connectant vraiment au présent que, en fait, on peut être connecté à Dieu. Et si je dis Dieu, encore une fois, ben oui, moi je viens du christianisme, donc je dis Dieu. Mais encore une fois, dans la symbolique, c'est une énergie aussi que l'on définit par un genre masculin, mais ce n'est pas un monsieur. On se sorte ça de la tête, pitié, ce n'est pas un monsieur et ce n'est pas une personne qui a une autorité sur nous, c'est une réalité en fait. Qui est, qui était, qui sera, en fait, et qui est l'éternel, en fait. Et s'il est masculinisé, c'est simplement parce que, à ses yeux, nous sommes tous et toutes féminins. Nous sommes le réceptacle pour le recevoir. Sans nous, c'est pas qu'il est rien, mais il est rien, il est tout. C'est-à-dire qu'il est, mais il ne peut pas expérimenter réellement la vie, parce qu'il expérimente à travers nos corps et à travers notre expérience humaine, quoi. D'ailleurs, pour ça qu'on a Dieu qui s'est incarné, c'est Jésus-Christ, c'est ça, c'est Dieu qui s'est incarné pour expérimenter la vie. Parce que sans ça, en fait, et sans le corps et sans l'incarnation, il n'y a pas d'expérimentation de la dualité. De la dualité, oui, de la dualité. On ne peut pas, en tout cas, visiter ces polarités-là, puisque si on est le grand tout, on est le grand tout, quoi. Il y a tout, il y a tout qui est mélangé, et il n'y a pas de dissociation possible. Donc voilà, c'est vraiment important de se redire ça, de se dire que c'est quelque chose qui m'appartient, qui fait partie de moi, dans lequel il faut que je me relie, mais que je le trouve avec mes propres mots et que je lui parle directement sans complètement le mettre à l'extérieur de moi, quoi. C'est pas quelque chose à l'extérieur, c'est extérieur et intérieur, voilà. Et ça aussi, notre cerveau, ça fait des nuances.
merci beaucoup Anne-Julie pour tous tes conseils, pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta foi et tout ce que tu offres au monde.
Bah écoute, merci à toi. Merci de m'avoir offert cet espace pour partager tout ça. C'est encore très frais dans ma tête et dans mon cœur. Donc, je me dis, est-ce que. Enfin, c'est très intime en fait. C'est très, très intime. Et je me dis, si on ne le dit pas et si on ne partage pas cette beauté-là et c'est ce qu'on vit en fait, ben, c'est trop dommage, quoi. Il faut qu'on puisse se mettre en lien à travers tout ça aussi, ensemble. Merci
Merci.
beaucoup.
Et j'espère à bientôt.
À bientôt.
Et voilà, c'était le troisième et dernier épisode accompagné de cette femme fantastique, Anjali Osina. Cette artiste cette femme, cette mère, cette amie, cette... que dire? Cette boule à facettes qui m'émerveille toujours au fil des années, au fil des mois, au fil des jours, et qui est vraiment très chère à mon cœur et qui m'inspire dans mon quotidien. Et pour être tout à fait honnête, je pense que si j'avais jamais rencontré Anne-Julie, ce podcast, du moins sur le thème de la foi, n'existerait pas. Parce que c'est vraiment au travers de nos discussions que j'ai eu des gros déclics et que moi-même, je me suis questionnée sur ma propre foi. Alors encore une fois, un grand merci, Anne-Julie, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu apportes au monde, aux femmes, pour tout ce que tu m'as apporté à moi. Merci d'exister et merci de continuer d'exercer ton art avec autant d'amour et d'authenticité. Je vous dis à tous, à très bientôt, au cœur du Lotus.